Bonjour à tous. À 24 heures du scrutin présidentiel en Centrafrique, la Cour constitutionnelle rejette la possibilité d'un report. Nous serons avec notre correspondante à Bangui alors que les combats continuent entre l'armée et les groupes rebelles qui luttent contre le pouvoir du président sortant et grand favori des élections, Faustin Archange Touadéra. Aux États-Unis, la décision de Donald Trump de refuser le plan de relance voté par le Sénat pourrait faire des victimes immédiates. 14 millions de chômeurs devraient voir leur assurance chômage expirer. On fait le point dans un instant avec Nabila Hamel. En France, les premières vaccination contre le Covid-19 débute demain auprès de personnes âgées volontaires. Et dans les EHPAD, la question du consentement au vaccin par les résidents devient de plus en plus sensible. Témoignage dans ce journal. Et puis les grottes de Lascaux s'adaptent au virus avec des visites virtuelles organisées pour la première fois à l'occasion des fêtes de fin d'année. Reportage à la fin de cette édition. Il est midi et demi, vous êtes bien sur France Culture. À 24 heures du scrutin présidentiel, la Cour constitutionnelle centrafricaine tranche pour un maintien des élections alors que les combats continuent entre l'armée et les groupes rebelles qui luttent contre le pouvoir du président sortant, grand favori de ces élections, Faustin Archange Touadéra. Tout de suite, une correspondance de Charlotte Cosset depuis Bangui.
La Cour constitutionnelle a tranché ce matin. La date du 27 décembre est maintenue pour la tenue du scrutin. La Cour a décidé que les recours déposés étaient recevables. Néanmoins, elle fait primer les dispositions de la Cour constitutionnelle sur le code électoral. Pour elle, il serait inconstitutionnel de repousser la date du vote. 8 recours avaient été déposés afin de revoir le chronogramme électoral. La plupart déposés par des politiques estiment que le scrutin ne peut avoir lieu dans les conditions sécuritaires actuelles. Des combats ont lieu dans différentes régions du pays. Du matériel électoral a été détruit, des équipes électorales empêchées. La Cour constitutionnelle a décidé que ces dysfonctionnements relèvent du contentieux électoral qui seront traités après la tenue de l'élection. Si Bangui ce matin est calme, des dispositions sécuritaires importantes sont prises. La MINUSCA est en alerte maximale et a reçu des renforts venus du Soudan du Sud. 3 casques bleus ont été tués hier dans la ville de Dekwa. Des observateurs craignent la recrudescence des affrontements dans le week-end pour empêcher la tenue du scrutin.
Une correspondance à Bangui de Charlotte Cosset. Aux États-Unis, 14 millions de chômeurs pourraient perdre leur assurance chômage spéciale, une conséquence du refus de Donald Trump de promulguer le plan de relance de 900 milliards de dollars voté par le Congrès. Le président estime que le chèque prévu de 600 dollars destiné aux Américains en difficulté est insuffisant. Il demande, pour valider le plan, que cette aide directe soit portée à 2000 dollars. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Et c'est l'énième volte-face du président qui doit rendre les clés de la Maison-Blanche le 20 janvier.
Donald Trump, défenseur des pauvres, donner l'argent au peuple, lançait-il aux parlementaires via son réseau social préféré. Son attitude a surpris les républicains qui avaient soutenu cette allocation à 600 dollars. Stephen Ekovitch, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris.
La décision de dernière minute de Trump est impulsive. Hein. Et cette fois-ci, la cible est vraisemblablement le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a osé dire aux yeux de Trump que Joe Biden est le président élu, que l'élection était finie, il fallait avancer.
À moins d'un déblocage de dernière minute, l'allocation chômage ne devrait donc plus être distribuée à partir de ce samedi pour les plus modestes. Il restera probablement activé les aides de l'État. Stephen Ekovitch.
Il y aura certainement un relais, au moins temporaire, des associations locales, des églises, par exemple, des municipalités, des États. Donc, pendant un certain temps, il y aura certainement une solidarité de la société civile et ses associations, mais ça ne peut pas durer indéfiniment.
Une situation transitoire, certes, et Donald Trump, qui menaçait d'opposer son veto au plan de relance, ne l'a toujours pas fait. Il passe pour le moment ses vacances dans sa résidence de Floride.
Les précisions de Nabila Hamel. En France, le lancement de la campagne de vaccination démarre demain à Sevran et à Dijon auprès de personnes âgées volontaires. Les 20 000 premières doses du vaccin sont arrivées tôt ce matin à la pharmacie centrale de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne, où elles sont stockées à moins 80 degrés avant d'être distribuées. Dès lors, dans les EHPAD se pose évidemment la question du consentement au vaccin des résidents, mais revient aussi le spectre d'une vaccination rendue obligatoire, non pas en droit, mais bien dans les faits. Exemple, en Lorraine, où les premières injections doivent avoir lieu dans une semaine avec le consentement des pensionnaires ou bien de leurs tuteurs légaux pour ceux qui n'ont plus les capacités cognitives. Une décision pas forcément facile à prendre au sein des familles. Écoutez, Chantal Bilan, habitante de Villers-Clairieu, elle n'est pas favorable à la vaccination de sa maman, âgée de 92 ans, mais elle craint que les résidents non vaccinés n'aient pas les mêmes droits que les autres.
On a l'impression que tout va reposer sur nous. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les familles seront accompagnées au mieux et surtout qu'il n'y aura pas de pression. Voilà, c'est ça notre principale crainte, c'est qu'il y ait une pression exercée sur les résidents et sur les familles. Comment est-ce que les EHPAD vont organiser les visites avec les familles et puis la vie dans l'EHPAD, tout simplement, avec des vaccinés et des non-vaccinés, vous voyez ? Donc, quelle est la vraie liberté des familles et des résidents ? Point d'interrogation.
Et la distinction entre les patients vaccinés et les autres sera inévitable, selon Claire-Marie Lemonnier, la directrice de l'EHPAD de Colombelles-les-Belles. Écoutez.
Les personnes qui sont vaccinées vont avoir moins de risques. Donc évidemment, ils vont certainement pouvoir reprendre une vie plus normale que les autres. Je pense particulièrement aux sorties, je pense particulièrement aux visites. Les autres, s'ils font le choix de ne pas se faire vacciner, vont rester plus vulnérables au Covid. Donc ces personnes-là, effectivement, il y aura certainement plus de mesures de précaution à leur encontre.
Et la nouvelle souche du coronavirus détectée en Angleterre, plus contagieuse que la précédente, pourrait accélérer le calendrier de vaccination. C'est en tout cas ce que demandent certains infectiologues. En effet, une première contamination à ce variant a été confirmée par les autorités sanitaires françaises. Un premier cas détecté à Tours. Il s'agit d'un homme de nationalité française, mais résidente en Angleterre, est revenu de Londres il y a quelques jours. Testé positif le 21 décembre et asymptomatique, il est isolé à son domicile. Mais écoutez le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. Il appelle clairement à une accélération du calendrier vaccinal pour faire face à ce variant.
Ça risque de créer à nouveau une tension hospitalière ou du moins d'empêcher d'avoir un nombre de contaminations qui va descendre. Et ça veut dire que la vraie question, c'est où est-ce qu'on veut se placer sur le calendrier ? Est-ce qu'on veut que le virus prenne le pas et que les contaminations continuent malheureusement à augmenter cet hiver ? Avec un risque d'avoir une augmentation des hospitalisations et des décès, et peut-être d'un reconfinement malheureusement, ou est-ce qu'on veut accélérer le calendrier vaccinal pour que cet été, on puisse espérer venir à bout de ce virus et qu'il n'y ait pas de troisième ou quatrième vague à l'automne prochain. Pour le moment, avec le vaccin Pfizer-BioNTech, il faut des conditionnements à moins 80 degrés, ce qui rend très compliqué les choses. On va avoir normalement le vaccin Moderna et puis, je l'espère, peut-être un autre vaccin type AstraZeneca qui peuvent se conserver à température ambiante et qui permettrait très clairement aux médecins généralistes de rentrer beaucoup plus facilement dans la danse et peut-être aussi d'obtenir une adhésion plus globale des Français. Et donc, on pourrait imaginer que si on avait cette accélération de la production des stocks et de la disponibilité des vaccins, que finalement, on puisse de façon concomitante vacciner ces vagues successives, j'ai envie de dire, pour gagner du temps sur le virus.
Le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. Comme tous les lieux de culture, Lascaux 4, la quatrième réplique des grottes de Lascaux en Dordogne, s'adapte. Elle ne peut plus accueillir de public depuis le 29 octobre en raison de la crise sanitaire. Le site a donc mis en place pour la première fois pour les fêtes de fin d'année de véritables visites virtuelles payantes, des visites d'une heure et quart via la plateforme désormais bien connue Zoom, avec tout de même un guide en chair et en os, lui, le reportage d'Emmanuel Clavry.
Pour admirer le grand taureau depuis le canapé de votre salon, que vous soyez 2, 4 ou 10, il vous faudra débourser un forfait de 20 euros pour la connexion. La visite ressemblera ensuite à celles qui sont proposées sur place quand le centre est ouvert. André Barbet est le directeur général de la Sémitour, la société qui gère Lascaux 4 pour le département.
On déambule par le belvédère et ensuite déambulation jusqu'à la grotte. Et puis bien sûr, on visite la grotte, une partie de l'atelier. Et durant tout le trajet, on peut poser des questions au guide qui répond bien sûr à vos interrogations et puis qui donne ses interprétations du moment. C'est vraiment très interactif, c'est très intéressant.
L'initiative permet également à Lascaux de garder le contact avec ses visiteurs. Et si la formule séduit, André Barbet n'exclut pas de la pérenniser.
On n'enlèvera jamais ce qu'on a commencé à initier si derrière il y a une demande, bien sûr. Et puis ça permet peut-être à des personnes qui sont à l'étranger, vous voyez, quand on est à l'étranger, qu'on fait de la promo à l'étranger, on peut faire une visite virtuelle à des tour opérateurs étrangers qui sont à l'autre bout du monde, qui demain disent eh « on voudra reprogrammer », on peut déjà faire une visite avec leurs clients potentiels. Donc on est aussi dans une démarche commerciale quand on parle de l'étranger.
Ces visites d'une heure et quart environ se font sur inscription. Pour y participer, il est prudent de disposer d'une bonne connexion Internet.
Et le reportage d'Emmanuel Clavrier. Il reste encore deux dates pour participer à ces visites ancestrales virtuelles, le 29 décembre et le 2 janvier.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et les Pères Noël, oubliés de la logistique maritime et routière, c'est le thème de la bulle économique de Marie Viennot.
Cette année, comme les précédentes, le Père Noël n'est pas venu en traîneau, mais en bateau. La mer assure 85% du transport de marchandises dans le monde et le Covid-19 n'y a rien changé pour les marchandises. Nourriture, médicaments, pétrole, cadeaux made in China ou autres sont arrivés à bon port. Les marins à bord, eux, c'est une autre histoire. Depuis le mois de mars, les relèves d'équipage sont devenues un casse-tête. Certains ports refusent aux marins de débarquer car ils craignent qu'ils soient contaminés. D'autres les acceptent mais imposent ensuite une quatorzaine à l'hôtel que le marin doit le plus souvent payer. Avec la deuxième vague, pays et ports changent de règles du jour au lendemain. L'un de mes collègues devait embarquer au port de Douala, raconte un capitaine français. Mais comme le Cameroun a fermé ses frontières à cause de la propagation du virus, il a dû embarquer deux semaines plus tôt en France et n'a pas pu fêter Noël avec sa famille. Ça, c'est au mieux, et pour les marins français qui sont plutôt bien traités par leur compagnie. Pour les marins non gradés, philippins, chinois ou indonésiens, la situation est plus grave. Certains ont passé plus de 17 mois à bord, alors que la durée légale est de 11 mois. 17 mois sans mettre le pied à terre, 17 mois sans congé. Difficile de savoir combien de marins sont concernés. 400 000, dit l'Organisation internationale du travail, qui, après l'ONU et l'Organisation maritime internationale, a tiré la sonnette d'alarme en décembre dans l'indifférence générale. Il faut accorder aux marins le statut de key workers, travailleurs essentiels, disent ces organisations, faciliter leurs déplacements. 46 pays se sont engagés à le faire, des engagements qui malheureusement ne pèsent pas lourd face à la crainte du virus et de son nouveau variant.
No toilets, one fucking petrol station and they close the toilet. Why?
Nous sommes maintenant à Douvres, mercredi dernier. Pourquoi la seule station-service du coin a fermé les toilettes, s'énerve ce routier. L'ambiance est tendue entre la police anglaise et les chauffeurs. À 30 km de là, ils sont alors presque 5000 parqués dans un ancien aéroport, leur poids lourd comme seul refuge, sans toilettes, sans douche, sans repas chaud. La France a fermé la frontière dimanche dernier par crainte du nouveau variant. La Fédération nationale des transporteurs routiers a été alertée une demi-heure avant les médias. Noël en famille, annulé pour les Pères Noël de la route, dont 800 Français. Et surtout, des conditions de vie déplorables pendant plusieurs jours. La France a protégé l'Europe en prenant des mesures de contrôle strictes, estime droit dans ses bottes le ministre français des Transports. Faux, selon la commissaire européenne aux transports, qui a publiquement déploré le fait que la France ne suive pas ses recommandations de lever les restrictions pour les camionneurs. Les aurait-on oubliés ? Oui, et pour la deuxième fois. Au premier confinement, il avait fallu attendre deux semaines pour que les relais routiers, qui leur permettent de manger et de se laver, soient autorisés à ouvrir. Aujourd'hui, la frontière avec l'Angleterre est rouverte, mais avec 10 000 routiers restés coincés, les tester prendra plusieurs jours. C'est honteux. On est devenus les bagnards de la surconsommation, s'indigne la présidente de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Transporteurs de la mer ou de la route, même traitement, toujours aussi essentiel, toujours aussi peu pris en compte. Ni applaudi, ni reconnu, et régulièrement laissé en plan, abandonné sur le champ de bataille, comme le disent leurs représentants. L'année 2020 s'achève dans l'amertume pour tous les travailleurs et travailleuses dites essentielles qui auront permis à notre système de continuer. 48 heures avant Noël, les routiers outre-Manche ont fait sonner leur klaxon une nuit dans le silence de l'aéroport désaffecté où ils étaient parqués. Espérons qu'au Noël prochain, personne ne les aura oubliés.
De Marie Viennot. Un mot de la météo tout d'abord pour vous dire que le littoral de Seine-Maritime va être touché dès ce midi par les vents violents de la tempête Bella, des vents qui vont souffler jusqu'à 120 km/h et qui vont durer jusqu'à lundi matin. Prudence donc. Par ailleurs, dans le ciel cet après-midi, de la pluie sur le nord, la Normandie et la Bretagne, du soleil quelque peu voilé partout ailleurs. Les températures iront de 0 à Saint-Étienne jusqu'à 11 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal préparé ce midi avec Julien Loquet. À la technique, Clara Galivelle.